Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage immersif. L'objectif de notre format, comme à chaque édition, c'est vraiment de prendre une montagne de sources, des articles, des notes super complexes et d'en extraire la substantifique moelle.
Ouais, c'est l'idée.
Voilà. L'idée, c'est d'offrir un raccourci vers une compréhension pointue des grands enjeux contemporains, avec suffisamment de profondeur pour saisir toutes les nuances, mais aussi un rythme pensé pour garder notre audience captivée de bout en bout.
Eh bien, je dirais que le menu d'aujourd'hui est particulièrement dense, d'ailleurs.
Ah, ça, c'est clair. Aujourd'hui, on plonge dans un document géopolitique majeur qui date de cette année, 2026. Ça s'intitule « Le monde se referme, puissance, frontières et illusions perdues ». C'est rédigé par l'analyste Adnan Benchakroun.
Tout à fait.
Et le postulat de départ, il pose un diagnostic qui est clinique, sans appel. Le grand récit des années 90 et 2000, cette espèce de mondialisation heureuse, totalement fluide, pacifié par le commerce et l'effacement des frontières, c'est définitivement enterré.
Ouais, c'est la fin d'une époque, quoi.
Exactement. Et le texte avance que le monde ne se démondialise pas par un soudain caprice idéologique ou une montée des populismes, mais qu'il se repolitise par stricte nécessité. Face au choc, les États reprennent violemment les commandes. En fait, je suis ravie d'aborder ça avec toi aujourd'hui parce que c'est fondamental.
Je suis ravi aussi, mais c'est effectivement la thèse centrale du document et c'est un point de départ qui nécessite une précision immédiate pour notre audience.
Oui, vas-y.
Avant d'entrer dans la mécanique complexe de cette analyse, il faut vraiment rappeler de règles d'or de notre exercice ici. Ce document traite de dynamique mondiale acérée. On parle de la redéfinition de l'hégémonie américaine, des ambitions chinoises, russes, iraniennes, et ça aborde des concepts politiquement très chargés.
Très chargés, oui.
Donc, il est absolument essentiel de souligner que cette émission ne prend aucun parti. Il ne s'agit pas du tout d'endosser une vision du monde, de valider une idéologie, de gauche ou de droite, ni de soutenir un bloc contre un autre. Notre rôle exclusif, vraiment, c'est de décortiquer avec la plus grande impartialité la grille de lecture et les arguments tels qu'ils sont structurés par l'auteur.
Absolument. C'est une boussole indispensable pour naviguer dans ce type de dossier sans se perdre. Bon, décortiquons ça.
Allons-y.
Le tout premier constat qui frappe vraiment quand on lit ce rapport, c'est le retour brutal, presque primitif, du territoire et de la géographie physique.
Ouais.
Pendant près de deux décennies, avec l'essor d'Internet, de la finance algorithmique, les chaînes d'approvisionnement mondialisées, une sorte de consensus s'était installé. Le sol, le relief, les distances, ça n'avait plus d'importance stratégique.
On pensait que tout était dans le cloud, quoi.
Exactement. La carte physique semblait complètement obsolète face à la carte des réseaux. Or, le document démontre que c'était une profonde illusion d'optique. La géographie reprend ses droits. Les États réalisent que la vraie souveraineté, celle qui garantit la survie en temps de crise, elle ne se délègue pas au marché globalisé. L'État redevient l'ultime filet de sécurité. Et pour ça, il a impérativement besoin de maîtriser un espace physique.
Si on relie ça à la situation globale, l'auteur souligne un point crucial. C'est que le concept de territoire a lui-même muté.
C'est-à-dire ?
En fait, il ne faut plus l'imaginer uniquement comme une étendue de terre qu'on délimite avec des barbelés ou des postes de douane. En 2026, le territoire s'est devenu un espace tridimensionnel, voire multidimensionnel.
Ah oui, le rapport insiste beaucoup là-dessus.
Complètement. L'État moderne doit projeter sa souveraineté sur les océans, bien sûr, mais surtout sur les fonds marins. L'auteur rappelle, à juste titre, que 95% des communications mondiales transitent par des câbles sous-marins.
95%, c'est énorme.
C'est quasi la totalité, hein. Que ce soit des transactions financières, des échanges diplomatiques, et tout ça passe par des câbles qui font à peine l'épaisseur d'un tuyau d'arrosage.
C'est fou quand on y pense.
Maîtriser ou menacer ces infrastructures physiques nichées au fond des abysses, c'est détenir une capacité de paralysie phénoménale sur l'adversaire. Et le territoire s'étend aussi à l'espace orbital et au centre de données terrestres. La souveraineté contemporaine, en fait, elle exige une architecture de sécurité capable d'englober toutes ces strates simultanément.
Et le document propose d'ailleurs une illustration super concrète de cette géographie repolitisée. Il prend l'exemple du Maroc, qu'il qualifie d'état pivot.
Oui, un excellent exemple de cette mutation.
L'auteur s'attarde très longuement sur le complexe portuaire de Tangemed. Et c'est intéressant parce qu'au premier abord, on pourrait se dire « bon, c'est juste une belle réussite logistique, un immense parking à conteneurs ». Mais l'analyse va beaucoup plus loin. Le port y est décrit comme un outil de puissance silencieuse.
Absolument.
En capitalisant sur sa position sur le détroit de Gibraltar, qui est vraiment l'intersection exacte des flux entre l'Europe, l'Afrique, l'Atlantique, la Méditerranée, le pays a transformé une simple rente géographique en un véritable nœud géopolitique.
C'est un point fondamental. Tanger Med n'est pas seulement une infrastructure qui facilite le commerce. C'est ce qu'on appelle un point d'étranglement, un choke point stratégique.
Ouais, un verrou.
Exactement. Dans un monde où les chaînes de valeur se fragmentent, contrôler un hub logistique d'une telle ampleur, ça offre un levier de négociation diplomatique majeur.
On ne subit plus la mondialisation, on en tient une des vannes en fait.
C'est exactement ça. Ça permet de réguler des flux vitaux pour des continents entiers. C'est vraiment l'incarnation parfaite de ce que l'auteur tente de démontrer. La géographie ne subit plus les échanges mondiaux, elle les conditionne.
Ce qui nous amène d'ailleurs naturellement à repenser la définition même de la puissance aujourd'hui. L'analyse est fascinante là-dessus, car elle montre comment la grammaire du pouvoir a changé. Pendant la guerre froide, on s'en souvient, l'équation était binaire, on comptait les têtes nucléaires, on comptait les porte-avions, les divisions blindées.
La force brute, quoi.
Voilà. Ensuite, dans les années 2000, on a beaucoup parlé de soft power, cette fameuse capacité à séduire par la culture, le cinéma ou un modèle de société. Mais le document de 2026 explique noir sur blanc que ces grilles de lecture, elles sont dépassées. La puissance mondiale ne repose plus uniquement sur la capacité d'invasion ou la séduction.
En effet, l'auteur parle plutôt de l'ère du pouvoir composite ou du smart power. Mais attention, avec une définition très cynique et ultra pragmatique, elle ou juridique. Celui qui écrit la règle contraint tous les autres acteurs à s'y soumettre s'ils veulent accéder au marché.
C'est un pouvoir normatif, donc.
Exactement. L'autre pilier, bien sûr, c'est la maîtrise technologique de bout en bout. On parle de contrôler la conception des semi-conducteurs de dernière génération ou de détenir le leadership en intelligence artificielle.
Ouais.
Mais le concept le plus novateur soulevé dans le texte sur cette question de puissance, c'est l'idée que la suprématie ne consiste plus seulement à pouvoir agir. Elle consiste à empêcher l'adversaire d'agir.
Empêcher l'autre de bouger, carrément.
Il s'agit de créer des dépendances tellement profondes dans les chaînes d'approvisionnement que toute tentative d'hostilité de la part de l'autre deviendrait un acte suicidaire pour sa propre économie.
C'est fascinant. Et il y a d'ailleurs un passage qui bouscule pas mal d'idées reçues concernant les États-Unis. Parce qu'on entend très régulièrement, et partout, la théorie d'un empire américain en déclin terminal. Un empire paralysé par ses fractures politiques internes et qui serait inexorablement supplanté par la Chine.
C'est le grand récit médiatique actuel, oui.
Sauf que l'auteur rejette fermement cette idée. Il affirme que le déclin américain est en grande partie un mythe, ou du moins une profonde erreur d'analyse. Les États-Unis ne s'effondrent pas, ils ont simplement muté. Mais comment le texte justifie-t-il concrètement cette persistance de l'hégémonie américaine face à Pékin ?
Son argumentation repose sur la nature de cette hégémonie. En fait, elle est devenue indirecte et asymétrique. Les États-Unis n'ont plus du tout besoin d'occuper militairement des territoires pour dominer. Leur puissance s'exerce par le contrôle de l'architecture financière mondiale, la prééminence du dollar qui reste intacte, et surtout la mainmise sur des brevets technologiques cruciaux.
Donc le champ de bataille a juste changé de dimension.
Totalement. Face à ça, la rivalité avec Pékin n'est plus une simple guerre commerciale avec des histoires de tarifs douaniers sur l'acier ou le soja. C'est une séparation systémique. Les deux superpuissances sont en train de dupliquer les chaînes de valeur.
Ce qui a des conséquences énormes pour le reste du monde.
Énorme ! Ça force les pays intermédiaires à s'adapter en permanence. Ils doivent jongler en fait entre les financements chinois, qui sont souvent très concentrés sur les infrastructures lourdes, et la volonté occidentale de rapatrier la production industrielle chez des alliés géopolitiquement sûrs. C'est ce fameux concept de friendshoring.
Le friendshoring, oui, relocalisé chez les amis. Mais au milieu de cet affrontement titanesque entre Washington et Pékin, le document met aussi en lumière d'autres acteurs qui sont extrêmement intrigants. Des pays comme la Turquie, l'Iran ou la Russie. L'auteur les qualifie de perturbateurs. Ce ne sont pas des superpuissances capables de proposer un modèle mondial alternatif, on est d'accord, mais ils jouent un rôle déterminant.
Ce qui est fascinant ici, c'est la mécanique de leur influence. Ces puissances intermédiaires ont parfaitement compris qu'elles ne pouvaient pas du tout rivaliser frontalement sur le terrain économique ou technologique global, contre les États-Unis ou la Chine.
Ils n'ont pas les moyens, tout simplement.
Non, ils n'ont pas la taille critique. Donc, elles ont développé des stratégies de contournement. Elles exploitent les zones grises du droit international et les moindres hésitations des Occidentaux.
Comment ça se traduit pour la Turquie, par exemple?
Pour la Turquie, le texte explique qu'elle utilise un pragmatisme transactionnel redoutable. Elle joue de sa position centrale dans l'OTAN, tout en s'imposant militairement et commercialement en Afrique et en Méditerranée orientale. Elle est partout où les autres reculent. Et de son côté, la Russie assume totalement le coût de leur rupture brutale. Elle accepte le risque militaire et les sanctions pour sanctuariser ce qu'elle considère comme son étranger proche.
Attends, je me permets de te couper sur l'Iran, parce que le document utilise un terme très, très spécifique à son égard. Il parle de profondeur asymétrique. C'est un concept assez pointu. Concrètement, comment le texte traduit ça sur le terrain géopolitique de 2026?
C'est une excellente question, parce que c'est une clé de lecture majeure. La profondeur asymétrique, selon l'auteur, c'est la capacité d'un État à projeter sa puissance et à sécuriser ses intérêts, mais sans engager ses propres forces régulières, et surtout, sans offrir de cible conventionnelle à ses ennemis.
Ah, donc on frappe sans laisser d'adresse, en gros.
C'est l'idée. Pour l'Iran, ça se traduit par le financement, l'armement et la coordination d'un réseau extrêmement dense de milices non étatiques. Elles sont réparties dans tout le Moyen-Orient. Donc, au lieu d'avoir une armée classique qui franchirait des frontières, Téhéran utilise des acteurs par procuration pour maintenir une pression constante sur ses adversaires.
Tout en gardant les mains propres officiellement.
C'est ce que l'auteur appelle « conserver une forme de déni plausible ». C'est une stratégie de nuisance hautement calibrée. Et ça rend toute résolution de conflit dans la région strictement impossible sans leur accord tacite.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que cette notion de guerre non conventionnelle, ça fait le pont direct avec un autre chapitre majeur du dossier, celui des guerres invisibles. Le rapport insiste lourdement sur le fait que la conflictualité a radicalement changé d'échelle et de nature.
On est loin des déclarations de guerre à l'ancienne.
C'est fini ça. La guerre ne se déclare plus solennellement devant des parlements, la télévision. Elle est permanente, elle est furtive et elle se déroule dans l'ombre des réseaux. L'auteur parle du passage du renseignement traditionnel, qui était centré sur des agents humains, les fameux espions, à l'hyper-renseignement piloté par les algorithmes. L'information et la donnée ne sont plus seulement des outils pour comprendre l'ennemi, elles sont devenues l'arme de destruction elle-même.
Le texte est très éloquent là-dessus. Il montre comment la désinformation très ciblée, le vol massif de propriétés intellectuelles ou encore les cyberattaques contre des infrastructures critiques...
Comme attaquer des hôpitaux ou des réseaux électriques.
Voilà, c'est devenu quotidien. Ce sont des actes de belligérance de tous les jours. Et la conséquence politique directe de cette militarisation de la donnée, c'est la mort définitive de l'Internet des origines.
Ah oui, l'utopie des années 90.
Oui, ce rêve d'un réseau mondial libre, horizontal, qui échapperait au contrôle des gouvernements. Ça a complètement volé en éclats. Aujourd'hui, on est entré dans l'ère du splinternet, un réseau balkanisé, fragmenté.
Avec des frontières numériques, du coup?
Exactement. La souveraineté numérique, c'est devenu le grand impératif stratégique de la décennie. Chaque grand pôle rapatrie ses données, érige des barrières légales et technologiques. Et ce n'est pas par simple réflexe autoritaire comme on le lit parfois. C'est parce que laisser ces données vitales sur des serveurs soumis à des juridictions étrangères, c'est désormais perçu comme une faille de sécurité nationale inacceptable.
C'est une question de survie, en fait. Et cette volonté de contrôle, elle ne s'arrête même pas à la surface de la Terre. C'est un point que je trouve dingue dans le document. Il monte en orbite et décrit un espace qui est devenu le prolongement direct des rivalités terrestres. Le constat, il est implacable. L'architecture même de notre civilisation moderne, elle est littéralement suspendue à une fine couche de satellites.
On n'en a pas toujours conscience au quotidien.
C'est ça. Mais les systèmes de commandement militaire, la synchronisation des transactions financières mondiales, l'agriculture de précision, la logistique, tout, absolument tout repose sur ces infrastructures orbitales. Aveugler un satellite de communication ou de positionnement GPS, c'est ramener instantanément une armée adverse ou toute une économie au beau milieu du XXe siècle. Mais ce qui complique terriblement la donne dans ce rapport, c'est la privatisation de ce domaine.
C'est le nœud du problème actuel. Le rapport souligne le risque immense posé par les méga-constellations commerciales en orbite basse, celles qui sont déployées par des entreprises privées géantes. La frontière entre ce qui est une infrastructure civile et ce qui est un outil stratégique militaire est aujourd'hui totalement poreuse.
Oui, on ne sait plus qui fait quoi.
C'est ça. Lorsqu'un État s'appuie sur une constellation privée pour assurer ses communications militaires sur un théâtre d'opération, il délègue de facto une part énorme de sa souveraineté à un conseil d'administration, ou même parfois à l'humeur d'un seul milliardaire.
Ce qui est terrifiant du point de vue de la sécurité nationale.
Absolument. En cas de conflit, ces acteurs privés deviennent des cibles légitimes. Et leurs décisions de restreindre ou d'autoriser l'accès à leur réseau peuvent inverser le cours d'une guerre en quelques heures. L'auteur conclut que la dépendance à l'orbite, c'est la plus grande vulnérabilité silencieuse des États modernes.
Et justement, cette vulnérabilité technologique extrême, ça nous pousse inévitablement à regarder du côté des fondamentaux humains. Parce que le document opère ensuite un virage saisissant vers des forces plus lentes, moins spectaculaires que les satellites, mais qui sont tout aussi implacables. La démographie et les diasporas. Et sur ce point, l'auteur ne fait vraiment pas dans la demi-mesure. Il décrit une fracture générationnelle mondiale sans aucun précédent dans l'histoire.
Parce que la démographie, c'est vraiment la force tectonique de la géopolitique.
La lame de fond.
Oui, ça agit lentement, on ne la voit pas tous les jours dans l'actualité, mais ça détruit tout sur son passage si ce n'est pas anticipé. Le constat dressé pour 2026, c'est l'image d'un monde profondément désynchronisé. L'hémisphère nord, ce qui inclut l'Europe, le Japon ou une grande partie de l'Asie de l'Est, fait face à un hiver démographique particulièrement sévère.
Et ça a des conséquences stratégiques, directes.
Immédiates. Le vieillissement rapide de ces populations entraîne une contraction brutale de la population active. Ça met une pression insoutenable sur les systèmes de retraite et de santé, et in fine, politiquement, ça crée une incapacité mécanique à projeter de la puissance militaire, tout simplement par manque de vivier de recrutement pour leurs armées.
Alors que si l'on suit le raisonnement du texte, pendant que le Nord vieillit, le Sud, et très particulièrement le continent africain, connaît une expansion fulgurante de sa jeunesse. Comment le document anticipe-t-il l'impact de ce déséquilibre massif d'ici la fin de la décennie ?
L'auteur l'analyse très clairement comme le plus grand défi stratégique à venir. Cette jeunesse africaine massive, c'est d'abord un dividende démographique potentiel extraordinaire.
Une vraie force motrice.
Oui, elle peut devenir le moteur de la consommation et de l'innovation mondiale de demain. Cependant, il y a un grand mais. Si cette force de travail arrive sur des marchés qui sont incapables de lui offrir des infrastructures solides, des emplois formels et de vraies perspectives d'avenir, elle se transformera inévitablement en une source d'instabilité politique majeure.
Une poudrière.
Exactement. Le manque d'opportunités va catalyser des mouvements sociaux violents et des vagues migratoires que ni les pays du Sud ni ceux du Nord ne sauront gérer. Donc le véritable rapport de force global dans les années à venir, il se jouera sur cette capacité, ou non, à intégrer économiquement cette nouvelle génération.
Et en corollaire de tous ces mouvements de population, il y a un passage que j'ai trouvé hyper novateur sur le rôle des diasporas. Historiquement, quand on étudiait les diasporas en géopolitique ou en économie, on se limitait souvent à un tableau comptable. On calculait les milliards de devises envoyées au pays d'origine pour soutenir les familles.
C'était vu uniquement sous l'angle financier.
Précis de la diaspora marocaine, qui est évoquée en détail dans le document, on parle d'une communauté forte de plusieurs millions d'individus, particulièrement bien implantés en Europe. L'analyse les positionne aujourd'hui comme de véritables acteurs géopolitiques, dotés d'une agence propre.
C'est un changement de paradigme total. Les communautés installées à l'étranger ne sont plus de simples pourvoyeurs de devises pour leurs familles. Elles structurent désormais de vrais réseaux d'influence. Elles s'intègrent dans les sphères intellectuelles, économiques et politiques de leur pays d'accueil.
Elles ont une voix qui porte.
Et le document insiste beaucoup sur leur capacité à façonner les récits médiatiques. Elles peuvent lutter efficacement contre la désinformation qui cible leur pays d'origine et même orienter subtilement les décisions de politique étrangère des capitales occidentales.
C'est une force de frappe immatérielle.
C'est une forme de diplomatie organique décentralisée. Pour un État aujourd'hui, savoir mobiliser intellectuellement sa diaspora sans l'aliéner ou la brusquer, c'est un multiplicateur de puissance redoutable dans la guerre de l'information mondiale.
Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire si l'on rassemble toutes ces pièces du puzzle ? On a le retour brutal des frontières physiques et des câbles sous-marins, les guerres invisibles dans le cyberespace et en orbite, la reconfiguration des chaînes de valeur entre les États-Unis et la Chine, et enfin les bouleversements démographiques. On arrive au concept vraiment central du document, la déglobalisation.
Tout converge vers ça.
Mais attention, le texte prend grand soin de préciser que le monde ne va pas se transformer du jour au lendemain en une série de forteresses isolées. La mondialisation ne meurt pas. Elle devient, selon ses mots, sélective et conditionnelle.
Et c'est l'essence même de la conclusion de l'auteur. La déglobalisation, pour lui, c'est la fin de l'accès inconditionnel qu'on a connu. Les États occidentaux cherchent à sécuriser leurs approvisionnements en relocalisant la production critique. Mais pas nécessairement chez eux, plutôt chez des alliés stables géopolitiquement, comme on le disait tout à l'heure.
Le fameux « friendshoring ».
Voilà. Et pour des pays intermédiaires et idéalement situés sur la carte, cette réorganisation mondiale, c'est une opportunité historique de capter d'immenses investissements industriels.
Sauf qu'il y a un piège.
Un piège fatal, oui. L'auteur met en garde contre la tentation de se contenter de devenir un simple atelier délocalisé. Si un pays se limite à offrir de la main-d'œuvre bon marché et des petits avantages fiscaux, sans exiger de vrais transferts de technologie ni travailler à la montée en compétences de son propre capital humain,
il reste vulnérable.
Il reste une simple variable d'ajustement précaire, corvéable à merci par les grandes puissances dès que le vent tourne.
Et pour éviter ce déclassement, le document invoque un principe de cohérence stratégique. Il affirme de manière très forte que l'ouverture au monde doit désormais se mériter et se filtrer. Un État ne peut plus se permettre d'être une passoire géopolitique. Il doit choisir avec une extrême minutie ses dépendances.
Exactement, il faut choisir de qui on dépend.
C'est ça, diversifier ses partenariats et ne jamais, au grand jamais, céder le contrôle de ses infrastructures névralgiques, qu'il s'agisse de ses ports, de ses réseaux 5G ou de son secteur bancaire. L'ouverture réelle, paradoxalement, exige la capacité technique et politique de contrôler les flux qui nous traversent.
Le terme employé par l'auteur pour résumer toute cette posture, c'est la lucidité stratégique. Dans un système international où les règles multilatérales s'effritent, où les rapports de force s'exercent de manière de plus en plus décomplexée, refuser de voir le monde tel qu'il est, c'est choisir la soumission.
C'est très fort comme constat.
La souveraineté de 2026, ce n'est plus un héritage acquis qu'on célèbre une fois par an. C'est un combat quotidien. Et la définition la plus aboutie de cette souveraineté, selon le texte, c'est la capacité de dire non. C'est l'autonomie de décision face aux pressions conjointes des superpuissances étatiques d'un côté et des conglomérats technologiques de l'autre.
C'est une grille de lecture d'une grande rigueur. Et ça m'amène à une réflexion. Si l'on pousse l'analyse de cette vulnérabilité technologique dont on a parlé et cette nécessité vitale de filtrer les flux jusqu'à son paroxysme, je trouve que ça soulève une perspective finale qui n'est pas forcément explicitée telle qu'elle dans le texte, mais qui en est la suite parfaitement logique.
Laquelle ?
Puisque le document démontre brillamment que la connectivité absolue est devenue aujourd'hui la principale source de vulnérabilité. Que ce soit par le sabotage des câbles sous-marins, le piratage massif des données ou l'aveuglement des satellites, on peut tout à fait imaginer un renversement total des valeurs stratégiques. Et si, dans les décennies à venir, la ressource la plus exclusive, la plus rare et finalement la plus dissuasive pour une nation, ce n'était plus sa capacité à s'intégrer au réseau global, mais son aptitude technologique et politique à s'en déconnecter volontairement.
Waouh ! C'est une hypothèse intellectuelle vertigineuse ?
Le pouvoir de l'isolement chirurgical, en fait.
C'est exactement ça. Il faut s'imaginer une architecture d'État qui serait capable, en cas de cyberattaque massive ou de conflit mondial majeur, de couper instantanément tous ses liens avec l'extérieur. Mais tout en maintenant en interne le fonctionnement de ses propres réseaux électriques, financiers et logistiques.
Une bulle de survie ?
Voilà. Pendant que l'adversaire resterait totalement paralysé par ses propres interdépendances et l'effondrement des réseaux mondiaux, cet État-là survivrait. Dans une autarcie numérique et économique, certes, mais il survivrait. La capacité à éteindre la lumière de son propre côté pour empêcher l'incendie de se propager chez soi.
Éteindre la lumière pour empêcher l'incendie, c'est une image puissante.
C'est effectivement le stade ultime de la souveraineté dans un monde hyper connecté. Le luxe absolu de l'autonomie. Pouvoir dire « Eh bah, je me retire du jeu le temps que la tempête passe et je suis le seul à pouvoir le faire sans m'effondrer ».
Eh bien, c'est une réflexion renversante à laisser mûrir bien après la fin de cette discussion pour tous ceux qui nous écoutent. La géographie qui fait son grand retour, les câbles invisibles qui nous lient, la démographie qui gronde, tout ça s'entremêle pour redessiner intégralement la carte de notre avenir commun. Cette exploration analytique touche à sa fin. Un très grand merci pour ton temps et pour la clarté apportée à la compréhension de ces dynamiques si complexes qui façonnent notre décennie.
Le plaisir était pour moi. Merci de m'avoir accompagné dans cette analyse approfondie. Pour notre audience, je dirais que la curiosité reste la meilleure arme pour appréhender l'avenir.
Absolument. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur des forces qui dirigent notre monde. Et d'ici là, restez lucides.